Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Robert Savoie, accompagné de Sylvain Guimond. Merci Sylvain, ta générosité.
Merci à toi Robert, je suis content de te parler. Chaque fois qu'on se voit, c'est toujours un immense plaisir pour moi. Fait que je suis très heureux d'être avec toi et ta belle gang ce matin.
Merci. Pour les gens, on est à la troisième journée du sommet quand même, qui est très intéressant. Et comme je mentionne à chaque fois que je débute, le but et l'intention de tout ça, oui, c'est de donner au suivant, c'est de contribuer à un meilleur monde. Je fais ce sommet-là avec des intervenants que j'ai choisis chaleureusement, des gens que j'aime, c'est des gens de cœur, comme vous avez pu constater depuis le début. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont au travail, vous n'avez peut-être pas vu les conférenciers, conférencières, les formateurs, la première journée, deuxième journée, soyez sans crainte, on offre le coffret. Coffret que vous pouvez acheter à 97 $ canadiens, 97 $ euros. Vous le savez comment ça fonctionne, le but et l'intention là-dedans, c'est de ramasser. Là, c'est mon objectif, Sylvain, OK? C'est la mienne. Hein? J'ai un désir, j'ose penser grand. J'aimerais ça ramasser 100 000 $ pour remettre ces profits-là à 100% à un organisme qui me tient à cœur, qui est Jean-Marie Lapointe, qui m'a suggéré de donner ces fonds-là parce que eux-mêmes, tous les profits qui sont remis à 100%. L'administration, il n'y a aucun argent qui va dans l'administration. Alors, tous les profits seront versés au fonds Espoir Johanna Comtois de la Fondation Sud de Sainte-Justine. C'est pour le cancer, quand même. Cette petite fille-là avait 14 ans quand elle est décédée. Elle a parti avec sa mère cette fondation-là et les sous sont remis à 100%. Sylvain Guimond, merci de me permettre de dire ça dans les ici maintenant. Pour les gens de l'Europe, je ne suis pas sûr que tout. Tu sais, Sylvain, tu es connu ici au Canada, aux États-Unis. Probablement aussi en Europe, mais pour les gens qui ne connaissent pas, les quelques personnes qui sont là et qui ne connaissent pas, bien, Sylvain Guimond, éducateur physique, écoutez, là, je pourrais en nommer là, toute une journée, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, qui est extraordinaire. Bien, éducateur, éducation physique, ostéopathe et docteur en psychologie du sport, quand même pas rien. Plusieurs émissions de télé, radio, il est demandé partout comme conférencier. Sylvain, encore une fois, merci tellement d'être là.
Ça me fait plaisir d'être avec toi, Robert, ce matin. Puis, Jean-Marie, c'est un très bon ami à moi depuis très, très longtemps. Puis, je sais que Jean-Marie s'implique beaucoup auprès de causes qui lui tiennent à cœur. Donc, en ce moment, ça me fait plaisir. Si je peux t'aider à ramasser ce 100 000 $-là, ça va me faire plaisir. Sinon, ben, je te ferai un chèque de 100 000 $ après la conférence. Ça va me faire plaisir.
Alors là, les amis, on n'a plus de pression. Sylvain, j'aimerais ça que tu nous parles quand tu sais, pour accepter cette différence-là, comme qu'il se met, puis qui est quand même pas rien là, pour les gens qui t'ont peut-être pas entendu. Moi, ce qui m'a vraiment. Quand je t'ai entendu, premièrement, en conférence, j'ai pleuré ma vie. tu m'as touché profondément. Et surtout l'accueil que tu m'as fait quand j'étais à ta table pour me procurer un de tes livres. Tu m'as pris dans tes bras, je me suis senti comme aimé, je me suis senti grand. Et c'est ce que tu fais sentir à tous les gens qui passent sur ton chemin. Et ce qui m'a aussi, à travers tes expériences, c'est quand tu arrives aux États-Unis le 11 septembre,
ouais.
Des frissons. D'accepter ce qui se passe dans ce moment-là, parce que là, tu ne peux pas rejoindre personne, puis j'aimerais ça que tu racontes. Toi, tu t'en vas là pourquoi, premièrement?
Oui. Hein?
Puis qu'est-ce qui s'est passé à cet événement-là, puis que là, tu ne peux pas rejoindre personne?
Premièrement, j'ai une famille de 8 enfants avec des parents aimants et incroyables et qui avaient beaucoup de facilité. Mes frères et sœurs avaient beaucoup de facilité à l'école, mais pas moi. Donc, mon frère, mes 7 frères et ma seule sœur que j'ai, là, mais. Et j'ai quand même fait 2 doctorats. Puis,
mes parents. Juste rajouter, Sylvain, à ça, c'est toi le plus beau en plus.
Ah, exactement. Je dis toujours, mes frères, c'était des essais. À moi, ils sont arrivés à 8 qui ont arrêté à moi, parce qu'avant ça, c'était des essais. À moi, ils m'ont donné de la beauté. Donc, pour ceux qui me regardent maintenant, vous voyez que mes frères sont vraiment très laids. Mais à moi, ils m'ont donné la beauté, mais à mes frères, l'intelligence. Donc, quand mes frères sont arrivés à l'école, ils sautaient des années à l'école, moi aussi, mais par en arrière. Donc, j'étais pas très bon à l'école. J'avais des difficultés d'apprentissage. Puis ça m'a permis quand même, à travers l'amour d'une religieuse qui m'a dit, ben, t'es capable, puis elle m'a donné confiance en moi. J'ai réussi à faire des études de haut niveau malgré ma dyslexie. Je suis dysorthographique. J'ai un problème d'accès lexical, puis j'ai un bon TDA. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous avez un ou plusieurs de ces petits problèmes ou défis de la vie, ben, il y a de l'espoir parce que j'ai quand même réussi à le faire, puis à m'élever, à avoir une compagnie aujourd'hui qui est à travers le monde, qui est présente dans plusieurs pays, puis qui a traité des millions de personnes. Donc, mais tout ça parce qu'il y a des gens qui m'ont redonné de la confiance en moi, de l'amour que j'avais besoin pour m'accomplir. Et j'ai débuté ma carrière avec des athlètes de haut niveau, donc à faire des tests chez les athlètes, là, Tiger Woods, Mario Lemieux, tous ceux qui sont un peu connus en Europe, pour ceux qui sont là, ben, le Juventus, j'ai travaillé aussi avec le United Manchester, pour ceux qui sont dans le monde du soccer. J'ai fait des choses aussi en Europe, mais plus ici en Amérique du Nord, aussi au Japon avec des sumos, des gens qui... Ça, j'aime ça, les gars, quand j'allais, je me sentais mince, Robert, travailler avec des gens qui sont sumo. Et ça m'a amené à faire des évaluations d'athlètes de haut niveau. Et le 11 septembre, ben, j'étais avec la Ligue nationale où je faisais des tests des capacités physiques des athlètes. Donc, on fait les VO2 max, force musculaire, endurance musculaire, flexibilité, tout ça. Ma première formation, c'était en biomécanique. Puis ma deuxième formation, ben, c'était en psychologie du sport. Donc, j'ai allié le côté physique, le côté mental des choses. Et ça m'a amené à travailler avec la Ligue nationale de hockey, où j'avais à faire les examens, ce qu'on appelle les combines. C'est les examens au début de la saison. On fait des examens médicaux et des tests physiques et psychologiques pour les athlètes. Puis je faisais ça. Donc, le 10 septembre, j'étais avec les Hurricanes de la Caroline, une équipe de hockey de la Ligue nationale. Et le 10 septembre au soir, je suis arrivé à New York. Et je me présente pour aller à ma chambre d'hôtel qui était située dans les tours. Donc, je me présente au comptoir de l'hôtel là, parce que le lendemain, les tests devaient avoir lieu là. Puis on nous dit, je reçois un appel du directeur général des Rangers, parce que les Rangers de New York qui jouent dans la Ligue nationale. Puis on me dit, on a changé la chambre d'hôtel, Sylvain, parce que demain, on va avoir 68 joueurs au camp d'entraînement au lieu d'en avoir 63. Donc, il n'y a pas assez de place. Donc, on a changé d'endroit, on va être au Madison Square Garden. Donc, je me retrouve à aller coucher dans un autre hôtel près du Madison Square Garden. Mais dans mon agenda, moi, Robert, c'est écrit que je suis dans les tours jumelles, dans l'hôtel qui est là.
Toute ton équipe, ta famille.
Tout le monde pense que je suis là. Donc, le lendemain matin, on se présente. Moi, je n'ai pas appelé chez moi pour dire que je changeais d'hôtel. Pour moi, c'était banal. Là. J'avais toutes les équipes de la Ligue nationale à faire. Donc, dans une tournée, je n'ai pas appelé pour dire, oh, ce soir, excusez.
Je couche à telle place.
Non, c'est ça, j'ai pas appelé. Donc, le lendemain, on se présente pour faire les examens à 8 h le matin. Et à 8 h 46, les lumières s'éteignent où on est, puis ils rallument. Donc, il y a un joueur des Rangers qui s'appelle Théorine Fleury qui vient nous voir, puis dit il y a un avion qui a frappé une des tours. Nous, on croit que c'est un petit Cessna. Donc, on se dirige vers la télé qui est un peu plus loin, puis on voit la deuxième avion frapper en temps réel la deuxième tour. Là, on sait donc que ce n'est pas une erreur de pilotage, que c'est un geste délibéré. Donc, on est certain que la ville de New York est attaquée. Le Madison Square Garden, c'est où jouent les Rangers de New York. Mais pour ceux qui connaissent New York, c'est où est la gare. Donc, en dessous de nous, c'est là où arrivent les trains. Donc, on s'est dit sûrement que la prochaine cible qu'ils vont avoir à attaquer, ça va être où on est en ce moment. Et donc, on veut sortir de l'édifice, mais au même moment où on veut sortir de l'édifice, il y a des policiers qui entrent avec des chiens pour voir s'il n'y a pas d'explosifs où on est, ce qui n'est pas très rassurant. Mais au bout d'une heure, on nous dit, OK, tous ceux qui ont une formation médicale de premiers soins vous demandent de vous rendre vers le centre-ville. Donc, avec trois de mes collègues, je me suis dirigé aller vers le centre-ville de New York, en fait, vers les tours. Et je suis rentré jusqu'à temps que là, tout s'effondre, puis qu'on ressorte à toute vitesse. Puis j'ai rencontré des gens là où j'ai aidé des gens. Puis il y en a une dame qui avait plein de poussière sur elle qui se jette dans mes bras. C'est sûr là, qu'elle me trouvait à son goût, là, Robert. Mais elle dit, « It's the first time I was late. » C'est la première fois que je suis en retard. Donc, je lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Elle me dit, ce matin, ma petite fille de 4 ans ne voulait pas s'habiller. Puis à cause de ça, je suis arrivé 15 minutes en temps au travail. Mais elle dit, je travaille à l'étage où a frappé la première tour, la première avion, dans la première tour. Donc, elle sait qu'elle vient de perdre tous ses collègues de travail parce que c'est à l'étage où elle travaille. Donc, je vais avec elle à l'hôpital Saint-Vincent. Je continue mon chemin pour aider des gens. Mais c'était seulement à 8 heures le soir où j'ai pu appeler chez moi pour dire que j'étais correct. Mais depuis 8 heures le matin, j'étais incapable d'avoir une ligne téléphonique. Donc, à 8 heures, ça fait 12 heures que tout le monde s'inquiète de savoir si je suis encore vivant ou non. Donc, quand j'appelle chez moi, ma femme elle répond. Elle dit oui, allô. Je dis allô, c'est Sylvain. Elle dit Sylvain qui? Elle était déçue. Elle avait déjà dépensé tout l'argent des assurances. Et je suis revenu de New York en ayant un sentiment d'être heureux, d'avoir survécu, mais aussi un sentiment de culpabilité. J'avais perdu 3 amis dans les tours qui, eux, ne reviendraient plus chez eux pour voir leurs enfants. J'avais un sentiment de me sentir un peu coupable de ça. Donc, 3 jours plus tard, je suis entré dans la chambre de mes enfants. C'était dans la nuit. Ça a été très difficile de revenir de New York parce que tout était fermé.
Oui.
Et je me suis mis à pleurer. Puis, j'étais incapable d'arrêter de pleurer. Donc, quand je suis sorti de la chambre, j'ai dit, il faut que je me ressaisisse. Et donc, je me suis assis à écrire un poème. Et j'ai écrit un poème qui était d'actualité à l'époque, mais qui était aujourd'hui encore plus d'actualité, on dirait. Ça dit, dis-moi à quoi sert la guerre, pourquoi toute cette misère? Ne sommes-nous pas frères? Alors pourquoi n'en sommes-nous pas fiers? Dis-moi jusqu'où irons-nous pour quelques sous? Sommes-nous devenus à ce point fou que nous détruirons tout? Dis-moi ce que je dois faire pour calmer cet enfer qui règne ici-bas sur terre. Où sont les enfants d'hier? Dis-moi que l'on se donnera rendez-vous pour qu'ensemble on joue comme les enfants d'hier près de chez nous. Mais ces enfants d'hier, c'est nous. Alors pourquoi ne pas leur demander à eux ce qu'il faut faire pour être heureux? Peut-être qu'enfin, à nous deux, trouverons-nous la réponse dans leurs yeux. Donc, si seulement nous, comme adultes aujourd'hui, on pouvait reprendre nos cœurs d'enfants, puis de s'apprécier sans jugement, de s'apprécier, de s'aimer tout simplement, on vivrait dans un monde où la confiance dans les uns et les autres serait beaucoup plus grande et on serait dans un monde beaucoup plus sain. Et malheureusement, les gens ont de la difficulté à apprécier la différence des autres. Donc, on se bute à nos différences. On voudrait qu'on soit tous pareils. Et pourtant, la beauté du monde réside dans sa différence. Plus on est différent, plus on est puissant, tant aussi longtemps qu'on apprécie les différences des uns et des autres. À partir de ce moment-là, dans le respect de l'autre, ben, tout ce qu'on a à lui offrir, c'est de l'amour, puis de l'apprécier, de l'accepter tel qu'il est. Et je dis toujours la même phrase, ça ne vaut pas la peine de se faire de la peine avec des choses ou des gens qui n'en valent pas la peine. Si seulement on savait ensemble, si seulement on pouvait s'apprécier les uns et les autres, on vivrait dans un monde beaucoup plus harmonieux. Et il y a plein de choses qui vont bien dans la vie. Il y a plein de choses qui sont belles, mais on ne les montre pas. La société a décidé de mettre en lumière les méchancetés au lieu des bontés. Et si un jour on mettait en lumière toutes les bontés qui arrivent sur cette planète-ci, comme Martin Latulippe, tout le monde comme toi, ceux qui font rayonner les autres, qui sont là pour enseigner le pardon, puis enseigner l'appréciation des uns des autres et de ne pas avoir peur de se dire qu'on s'aime puis qu'on a besoin des uns des autres, mais je pense qu'on vivrait dans un monde beaucoup meilleur. Puis la différence de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont indifférents. Indifférents à la souffrance des autres, indifférents à... Et ça, c'est triste. Puis c'est justement ce que Jean-Marie a décidé de ne pas faire, d'être indifférent. Jean-Marie s'est associé aux gens de la rue. Jean-Marie, c'est un être exceptionnel qui, là, travailles beaucoup à aider d'autres personnes. Puis c'est ce que tu fais aussi, c'est ce que Martin Latulippe fait, c'est ce que les gens qui ont été dans la Z font aussi. C'est un beau mouvement de plein de gens différents qui ont pris des méthodes pour rassembler des gens puis d'être connectés ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on fait tous les deux, c'est cette partie-là, c'est ce qui nous rassemble, c'est parce que tous les deux, on s'aime tous les deux profondément. Moi, je t'apprécie de façon exceptionnelle, Robert, ce que tu es, ce que tu es comme personne. Puis je vois le bien que tu fais autour de toi, donc de participer à ça, pour moi, c'est un honneur. Puis probablement que si tu as décidé que tu voulais que je parle à ton groupe, c'est sûrement parce que les valeurs qui me représentent sont les mêmes que toi.
C'est sûr que tu es un modèle, c'est d'être humain, d'homme. Tu es un modèle d'homme. Puis, ce qui me fascine, Sylvain, de toi, c'est... En tout cas, à chaque fois que je t'ai vu, à chaque fois que j'entends parler quelqu'un de toi, c'est toujours la même chose que j'entends. Tu sais, tu portes ce que tu es. Tu portes ce que tu dis. Tu le portes tellement que tu l'as tellement marché, ce chemin-là, qu'aujourd'hui, tu es ce que tu dégages. Mais comment tu es arrivé à ça, Sylvain? Je pense qu'il y a des gens qui ont cru en toi.
Je dis toujours, je sais que les gens disent on choisit nos parents, mais moi, je ne pense pas que c'est vrai. Je pense qu'on ne choisit pas nos parents, parce que si on avait choisi nos parents, vous auriez tous choisi Émilien et Fleurette. Ils sont mes parents. On connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette, mais c'est de la petite bière comparée à Émilien et Fleurette. J'ai été élevé avec des parents extrêmement aimants qui ont fait en sorte que leurs garçons et leurs filles sont entourés d'amour constamment. Mmh. Et je suis devenu la personne que je suis parce que j'ai seulement voulu un peu imiter mon père et ma mère. De la porte, on n'a jamais barré la porte chez nous. La porte est toujours ouverte. Il y a toujours de la nourriture pour tout le monde. C'était comme le rassemblement de tout notre quartier. Les gens venaient à la maison, puis c'était toujours très, très, très amical dans notre maison, avec beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour. Donc, c'est de ce que j'ai hérité de cette partie-là. Puis j'aimerais seulement être en mesure d'imiter un peu mes parents, c'est tout. Donc, ça vient de là. Et moi, j'ai eu ce privilège-là d'être élevé comme ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des parents qui ne devraient pas être parents. C'est pas méchant ce que je dis, c'est seulement réel. C'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas cet amour inconditionnel facile d'aimer pour aimer tout simplement. Et quand on apprend ça, c'est probablement la plus belle chose qu'on peut faire, dire à quelqu'un, c'est ce qu'on vient de se dire toutes les deux, Robert, c'est « change pas, je t'aime comme t'es ». Quand on dit à quelqu'un « je t'aime comme tu es, change rien, j'aime tout de toi », ça te permet, toi, d'être authentique. Donc, la première chose, c'est cette confiance-là mutuelle qu'on se donne l'un à l'autre. Cette confiance-là de dire « tu peux être en sécurité parce que moi, je t'aime comme t'es ». Donc, ce sentiment de sécurité-là nous permet d'être authentique. Et quand ça nous permet d'être authentique, deux personnes authentiques, c'est ces deux personnes qui vont se permettre d'être eux-mêmes. J'ai rien à changer, je t'aime comme t'es. Tu sais, quand on aime de façon inconditionnelle, c'est extrêmement puissant. J'ai écrit un poème là-dessus qui dit « je n'aurais jamais dû ». Je n'aurais jamais dû changer pour être aimé. J'aurais jamais dû m'oublier pour être aimé. J'aurais jamais dû demander pour être aimé. J'aurais jamais dû supplier pour être aimé. J'aurais jamais dû pour être aimé, puisque l'amour est inconditionnel et inné. C'est un peu ça ce que je veux véhiculer, de dire ben, on a tous besoin d'être aimé, d'aimer. Puis si ça, c'était plus présent dans notre société et partout, on aurait un monde incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi on a de la difficulté à le faire. Parce qu'on n'apprécie pas justement les différences des autres. Et ma carrière, moi, je l'ai commencé avec des jeunes qui étaient en paralysie cérébrale, handicapés. Puis j'entendais souvent, c'est difficile. Hein? Et pourtant, c'est de eux que j'ai le plus appris. Oui, c'était pas seulement le sport qui était un défi, c'était la vie, tout simplement.
Puis j'aimerais ça qu'on aille à cette place-là, Sylvain. Puis avant d'aller là, les gens qui écoutent présentement, je ne sais pas ce que ça te fait vivre d'entendre les poèmes de Sylvain, toute la cohérence, la congruence de Sylvain. Moi, je suis vraiment touché, je me sens grand, je me sens aimé. Tu me fais sentir comme ça. Puis c'est ça que j'ai le goût de dire aux gens. C'est peut-être qu'on n'a pas eu les parents que Sylvain a eu, mais aujourd'hui, on peut choisir des parents. Un Sylvain, un Robert, des gens qui nous élèvent. Vas-y, Sylvain, tu veux
rajouter. Ce que je dis, ça vient juste compléter ce que tu dis, Robert. Tu sais, quand tu m'appelles, quand tu me parles, tu me dis « Hey, bro, c'est mon frère. » C'est comme mon frère. Dans la vie, on a des parents ou des frères ou des sœurs qu'on n'a pas choisis, mais on a des gens qu'on choisit. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est puissant. Moi, j'ai eu la chance que même si je ne les ai pas choisis, jamais je les changerai pour quoi que ce soit parce que je suis choyé d'être tombé d'une bonne famille. Mais pour ceux qui tombent dans une famille où c'est beaucoup plus difficile, où on n'a pas eu cet amour-là facile, où on s'est senti souvent rabaissé, on s'est senti blessé, on s'est senti humilié, on n'a pas senti cet amour-là qu'on devrait avoir de façon inconditionnelle dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, il y a aussi une belle leçon derrière ça. Il y a une leçon de dire, moi, je n'ai pas à répéter ce pattern-là. Je peux le changer. Je suis libre. Je suis libre de changer les choses maintenant et de faire en sorte de donner ce que je n'ai peut-être pas eu. Je sais que les gens disent souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais de l'amour, c'est que de façon inconditionnelle, l'être humain naît d'amour. Un enfant naissant, lorsqu'il arrive, ben, il reconnaît les sourires, il a un langage non-verbal extrêmement puissant, puis il y a de la joie, de l'émotion, il y a des émotions de base qui sont tous présentes. Il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Celle de la bonne façon, de répéter un comportement désiré, ou celle de ne pas répéter un comportement qui n'est pas désiré. Donc, je peux apprendre de choses que je ne dois pas faire ou apprendre des choses que je devrais faire. Les deux façons sont aussi puissantes l'une que l'autre, sinon même plus celle de ne pas répéter quelque chose qui m'a blessé. Donc, les gens qui ont vécu ces moments difficiles-là ont l'opportunité de dire maintenant, je suis en charge de ma vie à moi et je vais la vivre de la façon dont je l'entends. Mmh. C'est ça le succès. Le succès, c'est d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Pour moi, réussir, c'est servir pour s'accomplir. On ne peut pas s'accomplir sans servir. Lorsque je sers, lorsque j'aide quelqu'un, la question que je dois me poser, qui est qui?
C'est là que je conviens, Sylvain. Le petit gars que t'as aidé, là, qui est handicapé.
C'est moi. Exact. J'ai un petit bonhomme qui s'appelle François. Les gens me demandent toujours, Sylvain, c'est qui l'athlète qui t'a le plus marqué dans ta vie? Puis là, ils s'attendent à ce que je dis, je m'étais avec Tiger Woods, avec des grands athlètes. Puis je leur dis, François Bourbonnière. Puis là, on me demande, c'est qui? Bien, c'est un petit bonhomme que j'ai pris à l'âge de 10 ans, qui est arrivé dans mon gymnase, qui sa mère poussait le fauteuil roulant, son père était juste à côté. Puis il dit, un jour, je vais être champion du monde. Puis je dis, c'est sûr que tu vas être champion du monde, François, un jour, puis je vais t'aider à le devenir. Son père me dit, Sylvain, ne donne pas de faux espoirs à mon fils. Il y a assez d'être handicapé, on veut seulement que tu l'amuses. Et moi, j'ai répété à son père, vous, est-ce que vous croyez qu'un jour François pourrait devenir champion du monde? Il me dit, là, je viens de te le dire, on veut juste que tu l'amuses. Et ma réponse à moi, de jeune garçon de 24 ans qui sortait de l'université, j'ai dit, ben moi, je le crois et il va le devenir. François est devenu champion du monde 3 fois, il a fait le tour du monde 2 fois, il est allé à 4 Olympiques différents. Et ce que j'ai appris le plus de lui, c'est cette résilience-là, cette force de résilience. Il ne pouvait pas changer le fait qu'il est handicapé, mais il pouvait accepter de vivre autrement et de se résilier à vivre différemment. Et c'est dans cette puissance-là que j'ai vu quelqu'un être capable de persévérer malgré le fait que son père ne l'avait jamais supporté. J'ai vu quelqu'un qui était capable de montrer sa vulnérabilité lorsque c'était nécessaire, mais j'ai surtout vu quelqu'un qui avait un sentiment de remercier pour ce que je faisais pour lui. Et moi, j'ai toujours dit, non, c'est à moi de te remercier. C'est à moi de te dire merci de m'avoir enseigné tout ce que tu m'as enseigné. Et aujourd'hui, on est encore en contact. Et tu sais, il m'avait écrit une lettre, en fait, pas à moi, mais il a écrit une lettre à son père quand il a eu 40 ans. Puis il dit, j'aimerais ça l'envoyer, en fait, j'aimerais envoyer cette lettre-là à mon père. Il s'est dit, papa, lorsqu'un homme a un fils à la naissance, habituellement, ils sont excessivement fiers. Mais le tien, ton fils, est arrivé dans un emballage assez magané. Mais aujourd'hui, je te remercie de m'avoir donné la vie. J'ai une vie incroyable. J'ai des gens qui m'aiment. Je suis extrêmement heureux. J'ai fait le tour du monde. J'ai des amis partout. Mais je t'écris aussi pour te dire que je ne reviendrai plus jamais vers toi. Toute ma vie, je t'ai cherché partout. J'ai compétitionné. Je ne t'ai jamais vu. Et pourtant, moi, je suis allé te voir jouer au golf. J'ai compté tes coups. Je suis allé te voir faire un marathon. J'ai chronométré ton temps. J'étais tellement heureux et fier d'être ton fils que j'aurais aimé que tu sois fier de moi autant que je l'étais de toi. Ce n'est pas arrivé, puis aujourd'hui, j'ai trop souffert, je ne reviendrai plus vers toi. Et je me suis mis à pleurer quand j'ai lu cette lettre-là. Et je me suis dit, je suis qui, moi, pour juger ce monsieur-là? Je ne sais pas c'est quoi avoir un enfant handicapé, je n'en ai pas eu. Mais j'aurais aimé que pour cet homme-là, il puisse apprécier le fils exceptionnel qu'il a mis sur la planète. Et souvent, malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas comme être humain. On est toujours en train de désirer quelque chose qu'on n'a pas, au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà. Et seulement le fait d'apprécier ce qu'on a déjà, on est déjà rempli. Et ça nous amène à être non pas dans le désir ni le besoin, mais dans une façon de vivre autrement et différemment en étant heureux d'être ici maintenant. Est-ce que je le fais constamment, Robert, d'être heureux de ce que j'ai déjà? Puis de... Non. Bien souvent, je ne l'ai pas. Ce que je dis, ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais je m'efforce chaque jour d'apprécier ce que j'ai et surtout d'apprécier les amitiés qui se sont créées au fil des ans. Et les amitiés, c'est quelque chose de choisi. Mais lorsque une relation nous amène de la souffrance, ben, il faut être capable de s'en dissocier, de dire ben, « c'est correct, je t'en veux pas, mais je continue mon chemin différemment. » Et chacun y gagne, au lieu de rester dans des relations qui sont toxiques et qui nous blessent. Je ne dis pas que les gens le font volontairement, mais leur souffrance, ils vont la déverser sur vous. Ça ne vous appartient pas. Cette souffrance-là ne vous appartient pas. Vous pouvez avoir beaucoup d'empathie. Vous pouvez avoir... beaucoup de sentiments positifs pour ces gens-là, mais vous ne pouvez pas prendre cette souffrance-là sur vous parce que vous ne serez plus seulement, il n'y aura pas seulement une personne malade, il y en aura deux. Si je veux aider l'autre, il faut que je sois capable de m'aider en premier. Il faut que je sois capable d'être bien pour aider l'autre. Mais un jour, si l'autre ne veut pas être aidé, je ne peux pas aller au-delà de ça. Il faut être capable de se retirer pour rester sain et rester en bonne santé physique et mentale. Et ça, ce n'est pas d'être égoïste. C'est vraiment altruiste. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Ça commence par soi avant de pouvoir aider les autres. Et un jour, ben, si les gens ne désirent pas changer ou être mieux, ben, il faut que nous, on se retire quand c'est toxique. C'est malheureux, mais c'est important de le faire, autant pour eux que pour nous. Tu sais, il y a des gens qui seront toujours victimes toute leur vie. Et ces gens-là sont constamment malheureux. En fait, ils sont presque heureux dans le malheur. S'ils n'ont pas quelque chose à se plaindre, ils n'existent pas. Donc, ils trouvent quelque chose pour se plaindre et se faire victime. Okay? C'est dur ce que je veux dire en ce moment.
C'est la réalité de bien des cas.
Puis il y a des gens qui restent victimes, et dans une victime, ben, c'est parce qu'il y a un coupable quelque part. Donc, il faut remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est la faute d'eux. C'est à cause d'eux. Moi, je ne suis pas chanceux, je n'ai pas eu ça. Et là, c'est rien qui nous fait avancer. Le jour où on décide de prendre responsabilité, response enable, être capable d'avoir une réponse, c'est que je prends en main ma vie et je ne suis plus une victime. J'agis. Tout simplement, changer des choses, si j'ai le goût de changer. Si je ne veux pas changer, ben, je suis responsable aussi. Mais il faut arrêter de se plaindre. faut arrêter d'attirer les autres vers le bas si nous, on n'est pas prêt à s'élever et à être à un autre niveau et apprécier la différence des autres, justement. Apprécier ça qu'on est différent. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « La puissance de nos différences ». Et prouver que plus les gens, on est différents, si on apprécie nos différences, on va combler nos besoins des uns et des autres. En fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, dans ce qui est différent d'une autre personne à moi, ça m'amène des compléments qui me permettent à moi de mieux évoluer et à l'autre aussi de mieux évoluer. Parce que la vie est courte. La vie est très courte. La vie est belle parce qu'elle est courte. La vie est belle parce qu'elle est imprévisible. Si chaque jour, on savait exactement ce qui était pour nous arriver, on serait tous en dépression. On ne pourrait pas vivre le jour de la marmotte constamment. La vie est belle parce qu'elle est fragile, la vie est belle parce qu'elle est courte, et la vie est belle parce qu'elle est imprévisible. C'est ce qui rend la vie belle. Mais est-ce que la vie, elle est facile? Non. Il y a des moments difficiles et des moments qui sont plaisants. Je dis souvent que c'est comme un peu aller manger chez notre belle-mère. Il faut aller manger chez notre belle-mère quelques fois dans la vie pour savoir comment la bouffe chez notre mère est bonne. Donc, quand vous allez en quelque part où la bouffe est moins bonne, goûtez à fond la nourriture, ça va vous faire encore plus apprécier quand la bouffe est bonne. Et la vie, c'est la même chose. Les moments difficiles de ma vie, je ne dois pas essayer de les éviter, je dois les vivre profondément pour que lorsque le soleil va revenir, je l'apprécie encore plus. Pour tous ceux qui ont déjà fait des épisodes soit de dépression, des manques, des épuisements, des épisodes difficiles comme toi, tu as vécu, ce qui est vraiment de façon extrême, mais ces périodes-là, un jour, lorsqu'on passe à travers, nous permet d'apprécier ceux qui vont bien. Sans connaître les choses difficiles, c'est difficile d'apprécier ce qui est plus facile, ce qui est beau. Toute notre vie, c'est une dichotomie entre le bien et le mal, entre la beauté et la laideur de notre vie, entre l'amour et l'indifférence. Et c'est à nous de savoir où on va naviguer dans ces dichotomies-là. Quand on fait ça, on s'en rend compte que il y a tellement de choses sur lesquelles on a du pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de ce qui m'arrive, mais j'ai le pouvoir de réagir à ce qui m'arrive, la façon dont moi je le désire vraiment. Donc, ça nous redonne toute la partie de reprendre notre vie en main, de se reprendre en main, puis comme tu l'enseignes si bien, de se pardonner à soi, pardonner à l'autre pour être capable d'avancer. Le pardon, je le donne à l'autre, mais c'est à moi qui fait du bien.
Part de soi.
Ça part de soi.
Puis Sylvain, tout ça, tu sais, comment arriver à être aussi humble aujourd'hui, je me permets de te dire, avec toutes les personnalités quand même que tu as rencontrées. Écoute, tu as fait le tour du monde, tu as rencontré Clinton quand même, qui était le président des États-Unis suite à ton travail.
Ouais.
Comment tu fais pour arriver devant ces célébrités, si on peut dire ainsi, puis de rester... c'est quoi la clé, tu sais, de... Même le film 300, je ne sais pas si les gens...
Oui, John Butler et tout ça, oui.
La compagnie,
Je me suis toujours posé la question, pourquoi ça m'arrivait à moi? Pourquoi je rencontrais tous ces gens-là? Et j'ai compris que je les rencontrais pour être capable de partager aux autres. Au fond, que chaque expérience me permettait, moi, d'en parler et de le faire profiter aux autres. Et tu sais, les gens qui ont beaucoup de succès sont souvent les plus simples, sont souvent les plus humbles. Tu sais, Jean-Marie qui est là, son père a une carrière exceptionnelle. Jean-Marie, c'est quelqu'un d'extrêmement humble et simple. Tu sais, Martin Latulippe, tous ces gens-là, toi, vous êtes tous simples et humbles. Be humble and nice. C'est une chanson qui dit ça, justement. Une chanson country américain qui dit « Always be humble and nice ». Ça veut dire rester simple et humble et aimable. Être aimable, c'est d'être aimé, d'être aimant. Puis ça, je pense que si... Tu sais, la pire chose qu'une personne peut être, c'est de ne pas être elle-même.
Ouais.
Si tu te prends pour quelqu'un d'autre, c'est terrible. La première personne à être malheureuse, c'est elle. Souvent, les grandes vedettes finissent par perdre le lien avec eux-mêmes parce qu'ils ne s'appartiennent plus. Ils appartiennent à tout le monde, mais pas à eux. Et tu sais, Céline Dion m'avait livré un message. Elle dit, Céline, est-ce que tu me permets d'en parler aux gens? Elle dit, Sylvain, avec plaisir. Céline, elle me dit, tu sais, moi, ce que les gens me posent le plus souvent comme question, c'est comment j'ai fait me rendre au sommet. Puis elle dit, je ne me suis pas rendu au sommet. Je suis redescendu doucement. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'une grande carrière de chanteuse internationale, puis j'avais la tête dans les nuages, puis mes pieds ne touchaient pas à terre. Mais elle dit, ma famille, qui sont du monde très terre-à-terre, ses frères et sœurs, et René, l'ont fait descendre de son nuage une marche à la fois. Ils m'ont pris par la main, m'ont fait descendre de mon nuage une marche à la fois pour qu'aujourd'hui, je sois vraiment bien grounded. Elle me dit, j'ai jamais été aussi grounded que je suis aujourd'hui. C'est la seule raison pourquoi elle est encore vivante. Parce que la majorité des gens qui atteignent son sommet finissent par perdre le contact avec eux-mêmes. Ils ne s'appartiennent plus. Ils ont une personnalité publique, mais ils n'ont plus de personnalité individuelle. Ils ne s'appartiennent plus à eux. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils sont perdus. Ils n'ont plus de vie. C'est terrible ce qu'ils vivent. Et lorsqu'ils perdent profondément ce sentiment de savoir qui je suis, c'est extrêmement souffrant. Donc, ce vide-là, ils vont le remplir par des substances qui, malheureusement, un jour, vont finir par les emporter. C'est de la souffrance. Donc, pour être bien, peu importe à quel niveau on est dans la vie, c'est toujours de savoir qui je suis vraiment. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu donner aux gens qui sont dans la rue, puis donner un petit peu. Je suis pas très riche, mais ce que j'ai, je peux le partager. Et je donnais toujours un petit peu. Puis un soir, j'allais à RDS, c'est le réseau des sports ici où je contribue, puis c'est le soir, l'émission L'Antichambre, c'est pour ceux qui sont en Europe qui ne connaissent pas ça, mais c'est une émission qui est en direct, puis c'est tourné à 22 heures, donc c'est assez tard. Et je rentre au studio et je vois quelqu'un qui est un sans-abri et je décide de lui tendre de l'argent. Puis il me dit, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour moi, ça voulait dire j'abandonne sur la vie. Je trouvais ça terrible. Je voulais au moins le faire. Et j'ai pas eu le temps de lui demander ce qu'il en était. Donc, je suis allé faire l'émission. Et quand je suis ressorti, il était encore là sur le banc, en face de la station. Et là, je vais le voir, puis je lui dis, vous savez, j'aimerais vous donner l'argent. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Je vous demande de le prendre. Je ne veux juste pas être indifférent à ce que vous vivez, tout simplement. Et il me dit, si c'est pour vous faire plaisir, je vais le prendre. Et à ce moment-là, j'ai compris que on donne à soi. On donne pour soi. C'est pour se faire du bien à soi. Donc, tous les grands que j'ai pu rencontrer, il n'y a aucune différence avec tout le monde que je peux rencontrer. Pour moi, c'est des êtres humains que j'aime rencontrer, mais j'ai autant de plaisir à côtoyer des
Robert
gens.
Savoie, là.
Hein? Oh,
Robert Savoie.
non, lui, c'est Robert International. Ça,
Bobby International.
Bobby International, ça, c'est big, là. Ça, c'est très, 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 très big. Mais j'ai autant de plaisir à ça parce que justement, et souvent je rencontre que ces gens-là sont restés humbles et simples. Je pense que le problème, c'est pas ceux qui le sont devenus, mais ceux qui aimeraient le devenir. Trop souvent, c'est des wannabes, ceux qui veulent être comme ça, puis souvent, c'est plutôt les gens autour, dans leur entourage. C'est très drôle ce que j'ai pu vivre avec Georges Saint-Pierre, avec plein de personnes mondialement. Eux, ils sont simples, mais des fois, autour d'eux, leur environnement, c'est pas simple. C'est pas toujours facile. On dirait presque que c'est eux les vedettes et pas la vedette en tant que telle. C'est très drôle comment très souvent les gens qui ont beaucoup de succès vont rester très humbles. Et le succès, c'est quoi au fond? C'est juste d'arriver à vivre comme on l'entend, c'est rien d'autre. Donc pour moi, les gens me demandent, Sylvain, tu traites-tu encore des gens, parce que j'ai une clinique, puis je vois des gens. Il y en a qui me disent, tu traites-tu du monde ordinaire? Mais je leur dis, ben, c'est quoi du monde pas ordinaire? C'est quoi? Pour moi, tout le monde, c'est du monde. Il n'y a pas de différence entre les gens. C'est pour ça, apprécier cette différence. C'est qu'au fond, on est identiques. Tu sais, les hommes, les femmes, tous les différents types d'orientation. La première chose, c'est les différences individuelles. On est différents, oui, dans nos personnalités, dans nos traits de caractère. On a des différences autant hommes-femmes, etc. Puis, tout ça, ben, ça fait en sorte que on regarde nos différences. Mais Robert, notre ADN est pratiquement identique.
Mm-hmm.
La personne soit noire, jaune ou vert, on a la même ADN ou presque. On est beaucoup plus semblable qu'on est différent. Donc, pourquoi pas apprécier nos ressemblances au lieu de nos différences? On est liés dans notre ADN profondément. Le jour où l'être humain va comprendre ça, on va arrêter de s'entretuer, puis d'apprécier nos différences. C'est dans ce manque, on a un manque de confiance, de trust. Il y a un manque très grave de confiance mutuelle, de se faire confiance à soi, de faire confiance à l'autre. Ben, ça se peut que je me suis trompé. J'aurais peut-être pas dû te faire confiance, mais mon intention à moi, elle était bonne.
Mm-hmm.
Le problème, il vient pas de celui qui a une bonne intention, mais celui qui a une mauvaise intention.
Mm-hmm.
Puis ça, on peut être méfiant. Hein? C'est la méfiance. Méfiant, confiance, méfiance, méfiance, confiance. C'est juste quelques lettres. On change méfiance pour confiance et ça fait toute une différence dans cette communication, communiquer qui est mettre en commun ce qu'on est dans nos différences pour être complémentaires ensemble.
Mon Dieu, Sylvain, il y a tellement, 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 tellement d'enseignements dans tout ce que tu as mentionné. Merci tellement cette générosité. Et je vais inviter les gens encore une fois d'aller commenter, tu sais, dans le groupe. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Tu sais, de... Wow! Moi, là, je vais dire ce que j'ai dit à Jean-Marie. Tu sais, en ta présence, Sylvain, je m'aime plus. Tu sais. C'est ça que ça fait.
Bien, ça fait la même chose pour moi, Robert. Robert, je t'aime profondément. Tu fais beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et n'importe quand je peux participer un petit peu à ta mission, demande-moi. Et je serai toujours très reconnaissant que tu me fasses confiance.
Merci tellement. Merci tellement. Merci à vous tous.
Merci tout le monde.
Passez une excellente journée, puis à très bientôt.
Merci, Robert.